Chapitre 34. Fleurs et gâteaux. D'une âme, nos dieux sont nés parcelles. Une âme qui cherche à dominer, à détruire, tant sa nature est cruelle. Ils sont ses sprennes, son cadeau, son trophée. Mais les formes de nuit parlent de vie future, d'un champion défié, d'une injure dont lui-même devra se venger. Extrait du chant des secrets de ceux qui écoutent, couplet final. Il se peut que le haut prince Valam soit mort, clarissime Tin, écrivit l'écho Calam. Nos informateurs n'ont aucune certitude à ce sujet. Il n'a jamais été en excellente santé, et des rumeurs circulent selon lesquelles sa maladie a fini par triompher de lui. Cependant, ses armées se préparent actuellement à s'emparer de Vedenar. S'il est mort, son bâtard de fils cherche sans doute à faire croire le contraire. Shallan se laissa aller sur son siège, alors que l'écho Calam continuait à écrire. Il semblait bouger de son propre gré, relié au Calam identique qu'utilisait l'associé de Tin, quelque part à Tashik. Ils avaient établi un campement permanent, et Shallan avait rejoint Tin dans sa tente somptueuse. L'air sentait toujours la pluie, et le sol de la tente laissait s'infiltrer un peu d'eau qui trempait le tapis de Tin. Shallan regrettait de ne pas porter ses bottes trop grandes plutôt que ses pantoufles. Si le haut prince était bel et bien mort, quelles en seraient les conséquences pour sa propre famille? Il avait été l'un des principaux problèmes du père de Shallan lors de ses derniers jours, et leur maison s'était endettée en s'assurant des alliés pour gagner l'oreille du haut prince, ou peut-être plutôt pour tenter de le destituer. Une guerre de succession pouvait faire pression sur les gens auprès desquels sa famille était endettée, ce qui les pousserait peut-être à venir trouver ses frères pour exiger qu'ils les remboursent. À moins que le chaos ne pousse les créanciers à oublier les frères de Shallan et leur maison insignifiante. Et laissant des spectres, la guerre de succession allait-elle les rendre plus ou moins susceptibles de venir réclamer leur spiricante? Père des tempêtes, il lui fallait davantage d'informations. Le Calam s'activait toujours, détaillant le nom de ceux qui s'efforçaient d'obtenir le trône de Jaqeved.
Connaissez-vous personnellement l'un ou l'autre de ces gens?
Demanda Tin, qui se tenait bras croisés, l'air contemplatif, à côté de sa table à écrire.
« Ce qui est en train de se passer nous donnera peut-être des ouvertures. »
« Je n'étais pas assez importante pour ces gens-là, » répondit Shallan en grimaçant. C'était la vérité.
« Quoi qu'il en soit, » reprit Tin, « nous devrions peut-être nous mettre en route pour Jaqeved. Vous connaissez la culture, les gens. Ça nous sera utile. »«
C'est une zone en guerre. » »«
Qui dit guerre dit désespoir, jeune fille. » Et le désespoir est notre allié. Une fois que nous aurons suivi votre piste dans les plaines brisées, et peut-être ajouté un ou deux membres à notre équipe, il faudra sans doute que nous rendions visite à votre patrie.
Shallan éprouva aussitôt un pincement de culpabilité. Les propos de Tin, ses récits, laissaient transparaître qu'elle choisissait souvent de prendre quelqu'un comme Shallan sous son aile. Un acolyte, quelqu'un à éduquer. Shallan soupçonnait que c'était en partie parce que Tin aimait avoir quelqu'un à impressionner. « Elle doit mener une vie tellement solitaire, » se dit Shallan. « Toujours en mouvement, toujours à prendre tout ce qu'elle peut obtenir, sans jamais rien donner en retour. Sauf une fois de temps en temps à un jeune voleur qu'elle peut former. » Une ombre étrange bougea sur le mur de la tente. C'était Motif, même si Shallan ne le remarqua que parce qu'elle savait que chercher. Il pouvait se rendre pratiquement invisible lorsqu'il le voulait, quoiqu'il ne puisse pas, comme certains se prennent, disparaître totalement. L'écho Calam continua à écrire, informant Tin plus en détail de la situation dans différents pays. Après quoi, il lui transmit une curieuse déclaration. « J'ai vérifié auprès des informateurs des plaines brisées », écrivit-il. « Ceux dont vous vouliez des nouvelles sont en effet recherchés. » La plupart sont d'anciens membres de l'armée du haut prince Sadeas. Il n'est pas homme à pardonner aux déserteurs.
« De quoi s'agit-il ? »
demanda Shallan, qui se leva de son tabouret pour aller inspecter de plus près ce qu'écrivait le Calam.
« J'ai laissé sous-entendre tout à l'heure que nous allions devoir aborder ce sujet, » répondit Tin en plaçant l'écho Calam sur une nouvelle page. « Comme je passe mon temps à vous l'expliquer,
La vie que nous menons exige d'accomplir des choses très dures. Pour ce qui est du chef que vous appelez Vatat, sa tête est mise à prix de 4 bromes d'émeraude, écrivit le Kalam. Les autres, 2 bromes chacun.
Une prime ?
S'exclama Shalan d'une voix insistante.
J'ai donné ma parole à ces hommes.
Chut, répondit Tin. Nous ne sommes pas seuls dans ce camp, petite idiote. Si vous voulez qu'on se fasse tuer, il vous suffit de les laisser entendre cette conversation.
Il est hors de question qu'on les livre contre de l'argent,
poursuivit Shalan plus bas.
Tin, j'ai donné ma parole.
Votre parole, répliqua Tin en éclatant de rire. Jeune fille, vous nous prenez pour qui? Votre parole.
Shalan rougit. Sur la table, l'éco-calame écrivait toujours, ignorant qu'elle ne lui prêtait aucune attention. Il parlait d'une mission que Tin avait accomplie précédemment.
Tin, reprit Shalan, Vatat et ses hommes peuvent se révéler utiles.
Tin secoua la tête et se dirigea vers le côté de la tente où elle se versa une coupe de vin.
Vous devriez être fier de ce que vous avez fait ici. Malgré votre absence quasi totale d'expérience, vous avez réussi à influencer 3 groupes distincts et à les persuader de vous accepter, comme leur chef. Alors que vous ne possédez pratiquement aucune sphère et absolument aucune autorité, c'est brillant. Mais je vais vous dire une chose. Les mensonges que nous racontons, les rêves que nous créons, ne sont pas réels. Nous ne pouvons pas le permettre. Ce sera peut-être la leçon la plus rude que vous aurez à apprendre.
Elle se tourna vers Shalan, l'expression soudain plus dure, toute espièglerie et toute nonchalance disparut.
Quand une bonne arnaqueuse meurt, c'est généralement parce qu'elle s'est mise à croire à ses propres mensonges. Elle trouve quelque chose de bon et veut s'y accrocher. Elle le prolonge en croyant qu'elle sera capable de continuer à jongler. Elle se dit un jour de plus, rien qu'un jour, et ensuite.
Tin laissa tomber sa coupe. Elle heurta le sol, où le vin aspergea de rouge sang le sol de la tente et le tapis. Un tapis rouge, autrefois blanc.
Votre tapis,
commenta Shalan, soudain engourdi.
Vous croyez que je peux me permettre de trimballer un tapis avec moi quand je quitterai les plaines brisées?
Chuchota Tin en traversant la flaque de vin pour prendre Shalan par le bras.
Vous croyez que nous pourrons emporter quoi que ce soit de tout ça? C'est insignifiant. Vous avez menti à ces hommes. Vous vous êtes raconté des histoires et demain, quand nous entrerons dans ce camp de guerre, la vérité vous fera l'effet d'une gifle en pleine figure.
Vous croyez pouvoir réellement obtenir la clémence pour eux, de la part de quelqu'un comme le haut prince Sadeas?
Ne dites pas de bêtises.
Même si vous parvenez à faire fonctionner l'arnaque auprès de Dalinar, vous voulez consacrer le peu de crédibilité que nous pourrons simuler à libérer des meurtriers de son ennemi politique. Combien de temps pensiez-vous pouvoir faire durer ce mensonge?
Shalan se rassit sur le tabouret, dans tous ses états, à cause de Tin aussi bien que d'elle-même. Elle n'aurait pas dû s'étonner qu'elle veuille trahir Vatat et ses hommes. Elle connaissait sa nature et avait accepté son enseignement avec enthousiasme. En réalité, ils méritaient probablement leur châtiment. Mais ça ne signifiait pas pour autant que Shalan allait les trahir. Elle leur avait dit qu'ils pouvaient changer. Elle leur avait donné sa parole. Des mensonges. Ce n'était pas parce qu'on apprenait à mentir qu'il fallait se laisser gouverner par ces mensonges. Mais comment pouvait-elle protéger Vatat sans retourner Tin contre elle? Était-ce seulement possible? Que ferait Tin quand elle découvrirait que Shalan était vraiment la fiancée du fils de Dalinar Colline? Combien de temps pensiez-vous pouvoir faire durer ce mensonge?
Tiens donc, commenta Tin avec un grand sourire. Alors ça, ce sont de bonnes nouvelles.
Shalan s'arracha à ses ruminations et regarda ce que l'écho Kalam venait d'écrire. Concernant votre mission à Ami de l'Athènes, lut-elle, nos bienfaiteurs nous ont écrit pour nous informer qu'ils étaient satisfaits. Ils veulent effectivement savoir si vous avez réussi à vous procurer les informations, mais je crois que ce point est secondaire à leurs yeux. Ils ont laissé entendre qu'ils avaient trouvé ailleurs les informations dont ils ont besoin et qui concernent une cité qu'ils recherchent. Quant au rôle que vous avez joué, il n'y a aucune nouvelle indiquant que la cible ait survécu. Il semblerait que vos inquiétudes concernant l'échec de la mission soient infondées. Quoi qu'il ait pu se dérouler à bord du navire, les événements sont allés dans notre sens. Le plaisir du vent a été déclaré comme disparu corps et biens. Jasna Colline est morte.
Jasna Colline est morte.
Shalan resta bouche bée, mâchoire pendante.
Ce n'est...
Peut-être que ces idiots ont bel et bien accompli leur mission, commenta Tin, satisfaite. On dirait que je vais toucher ma paix, en fin de compte.
Votre mission a mis de la peine, chuchota Shallan. Elle consistait à assassiner Jasna Colin.
À diriger les opérations, du moins, répondit Tin d'une voix distraite. J'y serais bien allée moi-même, mais je déteste les bateaux. Ces mers agitées me retournent l'estomac.
Shallan se retrouva sans voix. Tin était une meurtrière. C'était elle qui avait ordonné l'attaque contre Jasna Colin.
Les Kokalam écrivaient toujours. Nouvelles intéressantes, vous vous êtes renseigné sur la maison d'Avar de Jakeved. Il semblerait que Jasna, avant de quitter Carbrant, ait pris une nouvelle pupille.
Shallan voulut s'emparer de l'écho calame. Tin lui saisit la main et ses yeux s'écarquillèrent tandis que le calame rédigeait les dernières phrases. Une jeune fille nommée Shallan, cheveux roux, teint pâle. Personne ne sait grand-chose à son sujet. Nos informateurs ne semblaient pas trouver la nouvelle très importante jusqu'à ce que je la leur soutire. Shallan leva les yeux au même moment que Tin et leurs regards se croisèrent.
« Ah ! Damnation !»
lâcha Tin. Shallan voulut se dégager, au lieu de quoi elle se retrouva arrachée à sa chaise. Elle ne parvint pas à suivre les mouvements rapides de Tin lorsque celle-ci la projeta à terre à plat ventre. Puis la botte de Tin s'abattit dans son dos, lui coupant le souffle et envoyant une onde de choc dans tout son corps. La vision de Shallan se brouilla, tandis qu'elle cherchait à reprendre son souffle.
« Damnation ! Damnation !»
s'exclama Tin.
« Vous êtes la pupille de Colin ! Oui, Jasna, a-t-elle survécu ?»« À l'aide !»
lança Shallan d'une voix rauque et presque éteinte, cherchant à ramper vers le mur de la tente. Tin s'agenouilla sur le dos de Shallan et chassa de nouveau tout l'air de ses poumons.
« J'ai demandé à mes hommes de dégager toute la zone autour de cette tente. Je craignais que vous alertiez les déserteurs que nous allions les livrer, père des tempêtes !»
Elle se pencha pour approcher la tête de l'oreille de Shallan. Comme celle-ci se débattait, Tin la saisit par l'épaule et serra très fort.
« Jasna a-t-elle survécu ?»«
Non !»
murmura Shallan, dont les yeux se remplirent de larmes de douleur.
« Comme vous l'aurez peut-être remarqué, » lança la voix de Jasna derrière elle, « le navire possède deux très belles cabines que je nous ai louées à un prix conséquent. »
Tin jura, se releva vivement et se retourna pour voir qui avait parlé. Bien entendu, c'était Motif. Sans lui accorder un coup d'œil, Shallan se précipita tant bien que mal vers le mur de la tente. Vatat et les autres étaient là dehors, quelque part.
Si elle parvenait simplement...
Tin lui attrapa la jambe et la tira en arrière.
« Je ne peux pas m'échapper »,
songea une partie primitive d'elle-même. La panique envahit Shallan, apportant avec elle le souvenir des jours d'impuissance totale. La violence de plus en plus destructrice de son père. Une famille en train de se briser. L'impuissance.
« Je ne peux pas m'enfuir. Pas m'enfuir. Pas m'enfuir. Bats-toi !»
Shallan dégagea sa jambe de la prise de Tin et se retourna pour se jeter violemment sur elle. Pas question qu'elle se retrouve de nouveau impuissante. Pas question. Tin eut un hoquet lorsque Shallan l'attaqua de toutes ses forces. Furieuse et paniquée, toute griffe dehors, sans grande efficacité. Shallan ignorait presque totalement comment se battre, et quelques instants plus tard, elle se retrouva une deuxième fois avec la voix rauque de douleur et le poing de Tin planté dans l'estomac. Shallan tomba à genoux, des larmes sur les joues. Elle tenta d'inspirer, en vain. Tin lui donna un coup violent sur la tempe et un voile blanc envahit sa vision.
« Ça venait d'où, ça ?»
demanda Tin. Shallan cligna des yeux et leva la tête prise de vertige. Elle était de nouveau à terre. Ses ongles avaient laissé une série de déchirures ensanglantées sur la joue de Tin. Celle-ci leva la main, et quand elle la retira, ses doigts étaient rouges. Son expression s'assombrit, et elle tendit la main vers la table où son épée reposait dans son fourreau.
« Quelle pagaille !» gronda Tin. « Bourrasque ! Je vais devoir inviter ce Vatat ici et trouver un moyen de lui faire porter le chapeau !»
Tin dégaina son épée. Shallan s'efforça de s'agenouiller, puis de se relever, mais ses jambes étaient mal assurées et la pièce bascula autour d'elle, comme si elle se trouvait toujours à bord du navire.
« Motif !»
appela-t-elle d'une voix rauque.
« Motif !»
Elle entendit quelque chose à l'extérieur. Des cris.
« Je suis désolée, » déclara Tin d'une voix glaciale. « Je vais devoir couvrir mes arrières. D'une certaine façon, je suis fière de vous. Vous m'avez bien eue. Vous auriez été douée pour ça. »«
Calme-toi, »
s'ordonna Shallan.
« Calme-toi. »
dit battement de cœur. Mais pour elle, il n'était pas nécessaire qu'il y en ait 10, n'est-ce pas? Non, il le faut. Du temps, j'ai besoin de temps. Elle avait des sphères dans sa manche, tandis que Tin approchait. Shallan inspira vivement. La fulgiflamme devint une tempête qui faisait rage en elle, et elle leva la main pour projeter un trait de flamme. Elle ne parvint pas à lui donner de forme précise. Elle ignorait toujours comment faire. Mais il sembla, l'espace d'un instant, montrer une image ondulante de Shallan, qui se tenait fièrement debout, comme une femme de la cour. Tin s'arrêta net à la vue de cette projection de lumière et de couleur, puis agita son épée devant elle. La lumière ondula et se dissipa en volutes vaporeuses.
« Voilà que je deviens folle !» commenta Tin. « J'entends des voix, je vois des choses. J'imagine qu'une partie de moi n'a pas envie de faire ça. »
Elle s'avança. L'âme brandit.
« Je suis désolée que vous deviez apprendre la leçon de cette manière. Parfois, jeune fille, nous devons faire des choses qui nous déplaisent, des choses difficiles. »
Shallan gronda et tendit brusquement les mains devant elle. De la brume se tortilla entre ses doigts, tandis qu'une lame d'argent brillant s'y formait pour transpercer Tin en pleine poitrine. Celle-ci eut à peine le temps d'avoir un hoquet de surprise, tandis que ses yeux brûlaient dans son crâne. Le cadavre de Tin glissa de larmes et s'effondra par terre.
« Des choses difficiles !»
gronda Shallan.
« Oui, je crois vous l'avoir dit. J'ai déjà appris cette leçon. Merci bien !»
Elle se releva tant bien que mal, vacillante. Le pan de la tente s'ouvrit d'un coup sec et Shallan se retourna, tenant la lame d'éclat avec la pointe orientée vers l'entrée. Vatat, Gaz et une poignée d'autres soldats s'y arrêtèrent en un tas désordonné, leurs armes ensanglantées. Ils regardèrent tour à tour Shallan et le corps à terre avec ses yeux brûlés, puis de nouveau Shallan. Elle se sentait engourdie. Elle avait envie de renvoyer la lame, de la cacher. C'était une chose effroyable. Elle n'en fit rien. Elle broya ses émotions et les cacha au plus profond d'elle-même. Pour l'instant, elle avait besoin de quelque chose de fort à quoi s'accrocher. Et c'était précisément ce à quoi servaient les armes, quoique cette idée lui répugne.
Les soldats de Tin.
Était-ce bien sa propre voix, parfaitement glaciale, dépourvue de toute émotion?
Père des tempêtes!
S'exclama Vatat en entrant dans la tente, main sur la poitrine, fixant la lame d'éclat.
« Cette nuit-là, quand vous avez imploré notre aide, vous auriez pu nous tuer tous sans exception, et les bandits aussi. Vous auriez pu le faire toute seule. »«
Les hommes de Tin !»
cria Shallan.
« Ils sont morts, Clarissime !»
répondit Red.
« Nous avons entendu une voix. Elle nous disait de venir vous chercher, » et ils ont refusé de nous laisser passer. Ensuite, nous vous avons entendu hurler, et... Était-ce la voix du Tout-Puissant ?
Demanda Vatat dans un murmure.
C'était mon Spren, répondit Shallan. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Fouillez cette tente. Cette femme a été engagée pour m'assassiner.
C'était vrai, d'une certaine manière.
Il y aura peut-être des traces de l'identité de son employeur. Apportez-moi tout ce que vous trouverez qui comporte de l'écriture.
Tandis qu'ils entraient en masse pour se mettre au travail, Shallan s'assit sur le tabouret près de la table. Les coq-à-l'âme y attendaient toujours, suspendus en l'air, arrêtés au bas de la page. Il avait besoin d'une nouvelle feuille. Shallan renvoya sa lame d'éclat.
« Ne parlez pas aux autres de ce que vous avez vu ici, » dit-elle à Vatat et à ses hommes.
Ils s'empressèrent de le lui promettre, mais elle doutait qu'il s'y tienne longtemps. Les lames d'éclat étaient des objets quasi mythiques. Et celle-ci était maniée par une femme. Les rumeurs allaient se répandre, exactement ce dont elle avait besoin.
« Cette arme maudite t'a gardé en vie une fois de plus, » se rappela-t-elle. « Arrête de te plaindre. »
Elle souleva les coq-à-l'âme, changea la page, puis le reposa avec la pointe au niveau du coin. Au bout d'un moment, le complice lointain de Tin se remit à écrire.
« Vos bienfaiteurs de la mission d'Amis de la Taine souhaitent vous rencontrer. »
écrivit le calame.
Il semblerait que le sang des spectres ait autre chose à vous demander.
Voulez-vous que j'organise un rendez-vous avec eux dans les camps de guerre ?
Le calame s'immobilisa dans l'attente d'une réponse. Qu'avait-il dit un peu plus tôt ? Que ces gens, les bienfaiteurs de Tin, laissant des spectres, avait trouvé les informations qu'il recherchait concernant une cité, Ouritirou. Les gens qui avaient tué Jasna, menacé sa famille, cherchaient eux aussi la cité. Shallan fixa longuement la page et les mots qui y figuraient, tandis que Vatat et ses hommes commençaient à sortir des vêtements de la malle de Tin, cognant sur ses côtés à la recherche de compartiments secrets. « Voulez-vous que j'organise un rendez-vous avec eux ?» Shallan prit le coq-à-l'âme, modifia le réglage du fabrial, puis inscrivit un mot unique. « Oui ».